Choa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 1er juin 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Tout d'abord les titres. Au Sénégal, le président Macky Sall promet la fermeté de l'État face aux tensions dans le pays. Verdict aujourd'hui contre l'opposant Ousmane Sonko. En Mauritanie, Internet coupé après de violentes manifestations. Au Soudan, l'armée suspend les négociations et bombarde les paramilitaires à l'artillerie lourde à Khartoum. La Chambre des représentants ici à Washington adopte la loi suspendant le plafond de la dette. Le Sénat doit l'adopter à son tour avant promulgation par Joe Biden. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le président sénégalais Macky Sall a promis hier au dialogue national la fermeté de l'État face aux tensions à l'approche du verdict aujourd'hui contre l'opposant Ousmane Sonko. Ce dialogue regroupe le camp présidentiel, une partie de l'opposition, des représentants des milieux économiques, de la société civile et des cultes. Lionel Gahima.
Je voudrais rassurer quant au fait que l'État est et restera debout pour protéger la nation, la République et les institutions, a déclaré Macky Sall à Dakar en ouvrant un dialogue national. Cette rencontre boycottée par une partie de l'opposition s'est ouverte la veille du verdict contre l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol par une employée d'un salon de beauté. M. Sonko crie au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Il a appelé les Sénégalais à manifester massivement après avoir été ramené de force chez lui à Dakar. En dehors du sort de M. Sonko, l'autre facteur de tension est l'incertitude entretenue par le président sénégalais sur la candidature ou non à un troisième mandat. Il a été apostrophé sur ce thème et sur une participation inclusive à la présidentielle par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, lui-même dans l'incapacité de se présenter. Il n'y a pas de tabou, a déclaré le président sénégalais, ajoutant qu'on peut même inscrire la question du troisième mandat dans ce dialogue.
En Mauritanie, le gouvernement a coupé l'accès à Internet pour les téléphones portables hier, au lendemain de manifestations suite à la mort d'un jeune homme après une brève période de garde à vue, Yacouba Ouédraogo.
Malgré la coupure de l'accès à Internet pour les téléphones mobiles, les lignes fixes ont fonctionné et les activités commerciales ont été normales. Mardi, des manifestations ont éclaté à Nouakchott et à Bogué, dans le sud du pays. Les manifestants ont réclamé justice pour Omar Diop, arrêté lundi soir après avoir participé à une bagarre selon la police. Il est décédé plus tard à l'hôpital après avoir eu des problèmes respiratoires. Une autopsie et une enquête sont en cours pour déterminer les circonstances du décès, a déclaré le ministère de l'Intérieur. À Bogué, dans le sud-est du pays, un manifestant a été tué lors d'affrontements entre de petits groupes de jeunes et la police. Hier, le calme est revenu dans les deux villes. La Mauritanie a tenu des élections législatives ce week-end. Le parti du président Mohamed Ould Cher El Ghazouani a remporté 107 sièges sur 176 avant la présidentielle prévue l'année prochaine.
Au Soudan, l'armée a bombardé les paramilitaires à l'artillerie lourde hier après s'être retirée des négociations menées sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Jacques Aristide.
À Khartoum, les bases des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagle ont été sous le feu des canons de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan peu après la suspension des pourparlers à Jeddah en Arabie Saoudite. Les militaires accusent les rebelles de n'avoir jamais appliqué un des points de l'accord de trêve temporaire qui prévoit le retrait des hôpitaux et des maisons. Toujours, aucun couloir n'a été dégagé pour permettre le passage de l'aide humanitaire, dont ont désormais besoin 25 à des 45 millions de Soudanais, d'après l'ONU, qui ajoute que la situation devient chaque jour plus critique. Le pays est au bord de la famine. Les rares cargaisons qui ont pu être acheminées ne couvrent pas les immenses besoins. Au total, plus d'un million de personnes, principalement des Soudanais, mais aussi des réfugiés au Soudan, ont été contraintes de fuir les combats Déjà 350 000 autres personnes ont rejoint les pays voisins, la moitié en Égypte, les autres au Tchad, au Soudan du Sud, en République centrafricaine ou en Éthiopie, tous en proie à des violences et qui redoutent une contagion.
Les États-Unis ont assuré ce jeudi qu'ils resteraient prêts à assurer une médiation entre les belligérants au Soudan, mais à condition que ceci soit sérieux au sujet d'une trêve après l'échec des pourparlers en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du département d'État lors du déplacement du secrétaire d'État Anthony Blinken à Oslo.
Tout juste investi président, Bola Tinubu a déclaré lundi la fin des subventions sur le carburant, l'une de ses promesses de campagne. L'annonce a créé un vent de panique chez les consommateurs qui se sont rués dans les stations essence, créant d'immenses files d'attente dans les grandes villes du pays. L'équipe de communication du président s'est alors empressée de préciser mardi que les subventions ne vont arriver à échéance jusqu'à la fin juin, comme budgétisé par l'administration précédente, décrivant l'achat panique de carburant comme inutile. Hier, la compagnie nationale pétrolière a annoncé qu'elle a ajusté ses prix à la pompe dans ses différents points de vente, en lien avec les réalités du marché, actant de fait la fin d'un carburant subventionné pour les Nigériens. Le gouvernement lui doit l'équivalent de 5,7 milliards d'euros au titre des subventions versées par celle-ci. Les Nigériens, dont près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté, est déjà confronté à une très forte inflation.
Ça concernait le Nigeria, merci Eric. Les prix à la pompe donc ont quasiment triplé dans les stations-service du pays. Et c'est après l'annonce lundi donc du nouveau président de mettre fin aux subventions sur le carburant.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, les élus de la Chambre des représentants se sont prononcés hier à une très large majorité en faveur du texte suspendant le plafond de la dette jusqu'en 2025. Le président Joe Biden salue un pas en avant essentiel obtenu par un consensus compromis des deux parties, Nani Talani.
Aujourd'hui, la Chambre des représentants a fait un pas en avant essentiel afin de prévenir pour la toute première fois un défaut de paiement des États-Unis, a déclaré le président américain dans un communiqué. Le projet de loi, qui a reçu 314 voix en faveur contre 117, doit désormais être adopté par le Sénat. Le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, promet qu'il le soumettra aussi vite que possible. Le texte doit permettre d'éviter le pire, que les caisses du pays se retrouvent à sec lundi 5 juin, risquant d'amener Washington au défaut de paiement qui aurait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie américaine et mondiale. Le projet de loi suspend le plafond de la dette jusqu'en 2025, soit après l'élection présidentielle fin 2024. En échange, certaines dépenses seront limitées afin de les maintenir stables. Le texte prévoit par ailleurs une baisse de 10 milliards de dollars des fonds alloués aux services fiscaux pour se moderniser et renforcer les contrôles, ainsi que le recouvrement de milliards de dollars de fonds Covid non dépensés pendant la pandémie. Le compromis augmente aussi de 49 à 54 ans l'âge jusqu'auquel les adultes sans enfants doivent travailler pour recevoir une assistance alimentaire, sauf pour les anciens combattants et les sans-abri.
Tchebekino, une ville de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, est visée depuis plusieurs heures par des frappes ininterrompues qui ont fait 8 blessés, a indiqué jeudi le gouverneur local qui a accusé les forces ukrainiennes de bombarder le centre et les périphéries de la ville. Par ailleurs, une nouvelle offensive aérienne menée dans la nuit de mercredi à jeudi contre Kiev et sa périphérie a fait 3 morts, dont 2 enfants, ont déclaré les autorités de la capitale ukrainienne, ajoutant que des bâtiments ont aussi été endommagés. Il s'agit de la 18e attaque menée par la Russie contre la capitale ukrainienne en 1 mois. L'ancien vice-président américain Mike Pence devrait annoncer le 7 juin dans l'Iowa sa candidature à l'investiture républicaine en vue de la présidentielle de 2024. M. Pence s'était attiré s'était attiré les foudres de son ex-patron Donald Trump pour avoir refusé de ne pas certifier les résultats de la présidentielle remportée par Joe Biden. De son côté, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, un autre ancien proche de M. Trump qui a coupé les ponts après l'attaque du Capitole, devrait également se lancer dans la course à l'investiture républicaine la semaine prochaine. La Minute Éco, Mohamedou Houmpa.
La Gambie, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone perdent ensemble 2,3 milliards de dollars par an à cause de la pêche illégale, a estimé Amnesty International dans un rapport. En Gambie, trop de poissons pêchés servent à nourrir d'autres poissons et des animaux d'élevage à l'étranger. Par ailleurs, la surpêche nuit à l'environnement et met à mal les moyens de subsistance de la population locale, selon Amnesty. Le ministre burkinabé en charge de l'économie et la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso ont signé lundi à Ouagadougou trois accords de prêt d'une enveloppe globale de 450 millions de dollars. Le premier accord vise à soutenir les déplacés internes, le second à appuyer l'entrepreneuriat, le développement des compétences et l'adoption technologique, et le troisième concerne la mise en œuvre d'un projet de résilience et de compétitivité de l'élevage. Les pays en développement sans littoral sont encore marginalisés dans le commerce mondial en raison de la longue distance qui les sépare des mers et des difficultés de transit, a déclaré lundi le ministre adjoint de l'Agriculture du Botswana. C'était lors d'une réunion régionale des Nations Unies en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 qui s'est tenue au Botswana.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le défenseur de la RDC, Chancel Mbemba, revient sur son prix Marc Vivien Fouet, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1.
Oui, le défenseur congolais de Marseille, Chancel Mbemba, a devancé le milieu de terrain ivoirien de Lens, Seko Fofana, lauréat l'an dernier et qui faisait figure de grand favori, et l'attaquant nigérian de Nice, Terem Amofi, révélé d'abord à Anderlecht. Mbemba a rallié ensuite Newcastle en 2015, avant de s'imposer à Porto entre 2018 et 2022. Depuis son arrivée à Marseille cette saison, il est devenu l'une des pièces maîtresses de la défense de l'OM, actuellement troisième de Ligue 1 et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Marius Muhunga a joint Chancel Mbemba.
Je suis honoré, ça fait plaisir. On a crié à moi pour donner la voix pour que je prenne ce trophée. J'ai fait des grands matchs et j'ai marqué beaucoup de buts dans ce championnat. Je savais encore que je joue à OM, c'est grand club ici à France. Mon dernier but, j'ai marqué le week-end. Ça a ouvert beaucoup de portes pour prendre ce trophée.
Vous êtes le premier défenseur à recevoir ce prix. Quel est votre secret, Chancel Mbemba? Parce que vous êtes également le défenseur qui marque le plus de buts dans le championnat européen.
Le secret, c'est d'abord du travail, et quand tu es sérieux, et c'est grâce à tous mes coéquipiers, parce que quand je joue sur le terrain, je ne joue pas seul, c'est l'équipe, on est 11. Mais je prends l'opportunité, quand je monte, je profite de prendre l'opportunité de marquer.
Il y a également dans ce que tu dis, dans ton slogan, Chancel Mbemba, c'est boulot, palais, boulot. Ça veut dire quoi exactement et pourquoi ce slogan?
Moi, je préfère, quand je finis mon travail, je pars à l'entraînement. Quand je finis, je rentre chez moi. Là, je suis tranquille. C'est ma vie quotidienne.
C'est une sorte de discipline.
Ouais, une sorte de discipline, de manière, parce que les disciplines, là, je n'ai pas commencé ça ici. J'ai commencé ça déjà au début, au Congo. Il fallait, parce que j'ai beaucoup de chemin à faire. J'ai beaucoup de vision, j'ai beaucoup d'objectifs à atteindre. Il faut seulement la discipline pour atteindre ça.
Alors, vous êtes une inspiration sûrement pour toute une génération de Kinshasa. Vous avez commencé votre carrière. Peut-être un message à tous les jeunes qui aujourd'hui rêvent de jouer un jour dans des grands clubs comme vous.
J'ai dit à tous les jeunes Congolais, il faut travailler seulement, il faut travailler dur, il faut rester sérieux dans ton boulot. Il faut bien écouter les gens, sont commencés, soit les coachs. Quand tu prends l'opportunité, ça vient vers toi. Il faut bien saisir ça parce que tout est possible. Moi, je joue ici en Europe. Pourquoi pas vous?
Chancel Mbemba, vainqueur du prix Marc Vivien Fouet, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1.
Merci, Yacouba.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, des opposants réagissent à l'annonce du président Faustin Archange Touadéra ayant déclaré qu'une nouvelle constitution sera soumise en référendum le 30 juillet. Ce projet de longue date avait coûté en 2022 la révocation de la présidente de la Cour constitutionnelle Danielle Darlan et d'un autre juge après l'annulation d'un décret créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Cette énième constitution centrafricaine permettrait à M. Touadéra de briguer un troisième mandat. Nathalie Barge a joint le constitutionnaliste Dominique Erénon, président du parti d'opposition MDSP.
La convocation de ce référendum par le président Faustin Archange Touadéra, pour moi, signifie sa volonté d'avoir un troisième mandat et doublé d'une présidence à vie. C'est la volonté d'une personnalisation à outrance du pouvoir politique dans notre pays. C'est aussi sa volonté de supprimer toute possibilité d'alternance pacifique au pouvoir. Et ça signifie également la mort de la démocratie centrafricaine, chèrement conquise et acquise en 1993 avec la première alternance démocratique que nous avons connue avec l'accession du président Ange-Félix Patassé au pouvoir. Et donc, c'est une grande considération.
Qu'en est-il légalement? La Cour est-elle légitime depuis le limogeage de la présidente de la Cour constitutionnelle?
Depuis l'éviction inconstitutionnelle de la présidente professeure Danielle Darlan et du juge Trinité Bangosangafio, la Cour constitutionnelle est devenue illégitime. Parce que à travers l'éviction de ces deux juges au niveau de la Cour constitutionnelle, le président Touadéra a plongé la République centrafricaine, notre pays, dans ce qu'on appelle en termes constitutionnels une impasse constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est devenue illégitime. Et du fait de cette illégitimité, eh bien, cette Cour que nous avons aujourd'hui et qui est présidée par Jean-Pierre Wabwe ne peut plus valablement siéger et décider de quoi que ce soit en ce qui concerne, par exemple, les actes législatifs ou bien les actes réglementaires tels que le décret de convocation du corps électoral qui a été signé par le président Touadéra. Et c'est une Cour constitutionnelle qui est en réalité aux ordres de Touadéra.
Si le oui l'emporte au référendum, la République centrafricaine en sera à sa 8e constitution. Comment vous l'expliquez, ce nombre de constitutions?
Ce nombre de constitutions s'explique justement par le fait que dans notre pays, depuis l'indépendance, nous avons eu une instabilité d'un point de vue politique et une instabilité aussi d'un point de vue constitutionnel. Nous avons connu 5 coups d'État réussis dans l'histoire de notre pays et à l'issue de chaque coup d'État, à l'occasion d'un retour à l'ordre constitutionnel, il fallait adopter une nouvelle constitution. Donc ça s'est produit 5 fois. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons ce nombre assez élevé de constitutions dans notre pays.
Comment vous expliquez cette volonté finalement de la part du président? Certains auraient pu penser qu'il n'entrerait pas dans ce type de considération de vouloir, comme on dit, remettre les compteurs à zéro.
En fait, ce qui guide le président Touadéra, ce n'est pas tant les réformes institutionnelles dans notre pays. Loin s'en faut. Il veut supprimer toute possibilité d'alternance démocratique au pouvoir. C'est la raison principale. Et donc, il essaye de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il ne cherche pas à se maintenir au pouvoir, mais qu'il cherche à mener des réformes. Mais depuis 2016, qu'est-ce qu'il a construit dans le pays? Ce n'est pas le référendum constitutionnel qui va apporter quelque chose de nouveau dans ce pays. On peut très bien faire des réformes institutionnelles sans toucher à la Constitution.
Dominique Erénon, président du parti d'opposition MDSP en République centrafricaine.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Nigeria, le tout nouveau président Bola Tinubu a semé la panique au sein de la population. Dans son discours d'investiture lundi, il a annoncé la fin des subventions sur le carburant, entraînant une ruée vers les stations d'essence. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Lundi, pendant son investiture, le nouveau président Bola Ahmed Tinubu a annoncé la fin des subventions sur le carburant. Il n'a donné aucun calendrier, ni plus de détails, provoquant la panique dans le pays. Les Nigériens se sont précipités vers les stations-service pour s'approvisionner en carburant et faire des réserves. Prince Chidé manque de carburant pour son taxi.
S'il avait un plan pour supprimer la subvention sur le carburant, Il devait d'abord commencer à travailler et faire les choses à l'amiable au lieu de faire une telle annonce. Maintenant, les gens ont cassé le carburant pour spéculer. Maintenant, regardez, mon véhicule n'a pas d'essence.
Dans certains États, comme Lagos, la capitale économique, le prix du litre d'essence a doublé, voire triplé, jusqu'à 600 naira, soit 1,30 dollars le litre. Lundi matin, avant le discours de Bola Tinubu, le litre d'essence s'est vendu à 185 naira, le prix officiel. La compagnie pétrolière publique nigériane a pourtant assuré qu'elle disposait des réserves suffisantes en carburant, mais cela n'a pas calmé les esprits. Michael Staton est chauffeur de la compagnie de transport Uber.
Au cours des deux derniers mois, ça a marché bien pour acheter le carburant. Mais dès qu'il a prononcé ce discours disant que la subvention n'existe plus, toutes les stations-service ont commencé à fermer. En fait, c'est un de mes amis qui m'a appelé hier pour me demander où est-ce que j'ai. J'ai répondu à la maison. Alors, il a insisté pour que j'aille prendre de l'essence. J'ai dû quitter ma maison à 19h.
La suppression des subventions sur le carburant était une des promesses de campagne de Bola Tinubu. Mais les économistes affirment que la suppression de ces subventions va entraîner une hausse des coûts de la vie, le transport, les coûts de production et les prix des commodités. Awa Mustafa, économiste et expert en développement.
The same debate as every time.
C'est le même débat et à chaque fois avec le même impact. Vous supprimez les subventions d'un côté, vous augmentez le coût de la vie de l'autre, vous augmentez l'inflation, les emplois sont perdus et vous créez des pénuries dans d'autres aspects de la vie et nous revenons à zéro.
Le Nigeria est le deuxième producteur de pétrole d'Afrique derrière l'Angola, mais importe plus de 90% de ses besoins en carburant en raison de son incapacité à raffiner ses produits pétroliers. Le bureau du nouveau président invite le public à cesser la panique car la subvention ne sera pas supprimée avant la fin du mois de juin, ce qui n'a pas rassuré non plus. Le Congrès des syndicats du Nigeria a déjà rejeté la suppression des subventions sur le carburant annoncée par le président Bola Tinubu et réclame des consultations sur le sujet avant toute décision. La suppression des subventions sur le carburant est un sujet tabou au Nigeria. Plusieurs présidents avant Bola Tinubu ont déjà essayé, mais ont dû reculer face à la colère des Nigériens. Cette annonce est comme un ballon-sonde, mais servira aussi de premier test pour le tout nouveau président. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Est de la RDC, ouverture mardi d'un dialogue entre groupes armés locaux et le gouvernement provincial à Aru, chef-lieu du territoire du même nom dans la province de l'Ituri. Le gouvernement et la population souhaitent que les chefs de guerre optent pour la démobilisation afin de donner une chance à la paix dans cette province. Un reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Les milices FRPI, CODECO, FPIC et MAPI prennent part à ces discussions qui se tiennent dans la ville de Aru. Cette initiative du gouvernement militaire qui gère cette province est saluée par l'archevêque du diocèse anglican de Aru, Monseigneur André Georges, l'un des participants.
Quand il y a une rencontre comme ça où il y a l'opportunité, que les gens viennent ensemble s'asseoir pour discuter, échanger, pour moi ça c'est vraiment le salut pour cette province. Que nous puissions réellement profiter de ces assises pour nous décharger de tout ce que nous faisons, pour devenir les ingénieurs qui doivent bâtir notre province.
Ce dialogue a débuté mardi entre le gouvernement provincial et les milices locales, avec une participation des leaders religieux, des notables et la société civile. Corneille Aloma est membre de la société civile Force Vive de l'Ituri.
Nous croyons fermement qu'à l'instar des autres dialogues précédents, celui-ci qui se déroule à Aru apportera finalement la solution d'une paix durable, effective, cela à travers la réconciliation du cœur et l'unité des compatriotes se trouvant au sein des divers groupes armés actifs en Éthiopie.
Jean-Marc Audrou, l'un des représentants des groupes armés, s'est montré optimiste dès les premiers jours des discussions et s'est dit prêt à travailler pour la paix.
Premièrement, je remercie le chef de l'État, le gouvernement provincial et toutes les autorités qui ont permis que ces assises se tiennent ici à Arou. Le seul message que j'ai, c'est celui de la paix pour que les gens ne s'entretuent plus. Je dois déposer cette arme que je tiens aujourd'hui afin qu'elle ne me serve plus à tuer mes compatriotes.
L'attente du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboy en Kachama, est qu'à l'issue de ces assises, tous ces miliciens acceptent de suivre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion, sinon ils seront farouchement combattus par le FRDC.
Aujourd'hui, nous avons envoyé, n'est-ce pas, ces groupes armés vers Arou et ils vont parler entre eux. Nous sommes en train de les sensibiliser. Et donc, qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils devront aller au PDNRS. Mais s'ils ne veulent pas se démobiliser, il y a les opérations. Nous allons continuer avec la neutralisation. Et finalement, il y a aussi la justice, surtout pour les auteurs intellectuels.
Ces assises avaient débuté le 26 mai dernier par les travaux préliminaires avec les groupes armés locaux. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
La guerre au Soudan a déjà fait plus de 1800 morts selon l'ONG ACLED. Pour sa part, l'ONU parle de près d'un million et demi de déplacés et de réfugiés. Beaucoup ont fui vers le Tchad voisin, créant un fardeau supplémentaire pour ce pays, l'un des plus pauvres du monde. Précision de Jacques Aristide.
Shadi Abdelkerim Mahamat, une étudiante en biologie de 24 ans, a été contrainte d'abandonner son village soudanais de Tidelti au début du mois de mai.
Il y avait un conflit entre la communauté arabe et la nôtre. En plus, il y a l'insécurité à cause des affrontements. On a traversé la frontière avec les enfants et toute la famille. On veut protéger les enfants. Ici au Tchad, nos proches tchadiens nous ont accueillis et hébergés chez eux, partageant la nourriture et tout le confort avec nous. Nous ne manquons de rien. Et nous espérons que la situation dans notre pays se stabilisera afin que nous puissions rentrer chez nous si Dieu le veut.
C'est le Tchadien Yacoub Mahamat Abdelkerim, un parent éloigné de 44 ans, qui les a accueillis, de même que 10 autres familles, dans son village de Koufron, où l'un des nombreux camps de réfugiés de fortune a vu le jour.
Certaines des familles ont installé des tentes à l'extérieur, car l'enceinte était déjà pleine.
L'arrivée soudaine d'un grand nombre de personnes a réduit l'approvisionnement en eau dans les régions reculées et arides du Tchad. Les prix ont également grimpé, d'après le commerçant Adam Oumar Abdallah.
Biga.
Un kilo de farine coûtait entre 600 et 700 francs CFA. Maintenant, il coûte entre 1000 et 1100 francs. Un sac de farine de blé de 25 kilos coûtait autrefois 13 000 francs CFA. Maintenant, il coûte entre 21 000 et 22 000. Les prix ont augmenté tellement.
Peu importe, il faut accueillir les réfugiés à bras ouverts, confie la tchadienne Fana Hamid.
Quand un proche a besoin d'aide pendant cette période difficile, nous ne pouvons pas l'abandonner. Des réfugiés viennent chercher de l'eau chez nous parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter.
Et les réfugiés comme Kaltouma Abdirahman en sont reconnaissants.
Nous sommes arrivés ici à 1h du matin. Quand les propriétaires nous ont vus, ils nous ont logés dans leur maison. Après cela, ils ont tout partagé avec nous, leur cuisine, leurs toilettes, leurs vêtements. Depuis ce jour, nous ne mangeons et ne buvons qu'avec eux. Ils sont très gentils avec nous.
Avant le début de la guerre au Soudan, le Tchad, confronté à une pénurie alimentaire aiguë, accueillait déjà plus d'un demi-million de réfugiés des États voisins en proie au conflit.
Merci Jacques. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segloudia, à la mise en onde de Lionel Runanira Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.